Vous écoutez
RMC. RMC, 6h-7h. Bonjour, c'est Fred.
Fred Hermel.
Bonjour à tous, vous écoutez Bonjour, c'est Fred. C'est dimanche, les cloches sonnent et nous sommes ensemble jusqu'à 7h pour une spéciale Ligue des Champions puisque nous avons vécu un moment historique. Il était 21h hier soir quand...
La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Oh, Paris remporte la Ligue des Champions fois consécutive. Le PSG a gagné la Ligue des Champions.
Le Paris Saint-Germain conserve donc son titre au bout d'une longue et difficile soirée car il a fait de la prolongation et la séance de tir au but pour que le club de la capitale emporte la coupe aux grandes oreilles. Paris qui a souffert puisque Arsenal avait marqué dès la 6e minute par Kai Havertz, mais Ousmane Dembélé avait égalisé sur pénalty à la 65e. C'est la première fois depuis 2017 qu'une équipe conserve son titre. La dernière fois, c'était le Real Madrid. Ce n'est pas rien quand même. Et jamais un club du championnat de France n'avait remporté à deux reprises la plus belle des compétitions européennes. Alors que pensez-vous de cette victoire? Comment et avec qui avez-vous vécu ce moment historique? Le PSG est-il déjà entré dans la légende du sport français? J'ai envie de vous entendre ce matin. J'ai envie que vous partagiez avec nous vos émotions. Sachez que sur RMC, vous pourrez vivre en direct le retour des joueurs et les célébrations du titre. On va aussi, malheureusement, parler des débordements. Malgré le dispositif exceptionnel déployé avec 22 000 policiers et gendarmes, la fête a été souillée par des violences, des saccages et des pillages. Le bilan est terrible. Il y a eu 416 interpellations, dont 283 rien qu'à Paris. Il faut ajouter 10 interpellations en zone gendarmerie. Donc ça fait 426 au total. Et puis, il y a 7 policiers blessés. C'est désolant. Que pensez-vous de ces événements? Avez-vous été témoin de ces débordements? Êtes-vous inquiet de ce qui se passe dans notre pays? Peut-on encore y faire la fête? Et bien sûr, nos deux rendez-vous fétiches seront entièrement consacrés au sacre parisien. À 6h10, bonjour les Lefteaux, Benjamin Brami, supporter du PSG et d'Arsenal, qui a vu le match dans un bar aux USA et qui s'est pas couché. À 6h40, bonjour la France, Séguir Lazeri, sociologue du sport. Et puis aujourd'hui, c'est la fête des mères, on va pas oublier les mamans. Allez-vous faire un cadeau à votre maman? Êtes-vous attaché à cette tradition? Nicolas vous attend standard, faites le 32-16 ou écrivez-moi sur le WhatsApp 06 12 424 424. Bonjour, c'est Fred, c'est parti. La météo pour commencer avec Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Fred. Bonjour.
On respire enfin.
Eh oui, on n'a plus de département en vigilance orange. Par endroit, on va perdre 10 degrés cet après-midi. Ce sera le cas à Paris. Et c'est dans l'ouest, hein, surtout qu'on respire. On sera souvent entre 20 et 26 degrés. Dans l'est, ça baisse légèrement, mais ça reste chaud. On est souvent entre 28 et 31 degrés encore et jusqu'à 35 degrés près de la Méditerranée sous un ciel qui est souvent nuageux avec une perturbation qui arrive par la Bretagne ce matin qui va gagner toute la Manche cet après-midi. Elle est peu active, elle donne beaucoup de nuages et globalement ce sera nuageux sur l'ensemble du pays cet après-midi avec des averses orageuses dans l'est entre l'Auvergne-Rhône-Alpes remontant vers le Grand Est, sur les Pyrénées également et ailleurs on aura un ciel variable notamment dans le sud-ouest.
Nous sommes le dimanche 31 mai, il est 6h. Bon réveil à tous.
RMC, bonjour, c'est Fred.
L'heure d'accueillir Clara Gabillet pour le tout premier journal. Bonjour Clara.
Bonjour Fred, bonjour à tous. Légendaire, le Paris Saint-Germain conserve son titre de champion d'Europe. Victoire au tir au but contre Arsenal. On va revivre ensemble l'explosion de joie au coup de sifflet final. La joie qui laisse des traces ce matin, beaucoup de débordements dans la nuit. 416 interpellations partout en France, plus de la moitié rien qu'à Paris. Nous serons en direct des Champs-Élysées où la fête, vous l'entendrez, n'est pas terminée. Et puis en basket, Victor Wembanyama qualifié pour la finale de NBA, MVP du match, match numéro 7. Les Spurs ont battu cette nuit Oklahoma City et on vous parlera aussi bien sûr de Roland Garros et de la déception de Moïse Kwame battu hier aux portes des huitièmes.
Vous l'avez vécu en direct hier soir sur RMC.
Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Oh, Paris remporte la Ligue des Champions pour la deuxième fois. consécutive. Le PSG l'a fait. Le PSG a gagné la Ligue des Champions. Le ballon qui a fini.
On ne s'en lasse pas d'écouter et de réécouter les commentaires de Jean-Louis Tour. Oui, la deuxième étoile du Paris Saint-Germain.
Ils en rêvaient de se doubler, les Parisiens. Ils l'ont fait. Victoire contre Arsenal hier soir au tir au but. Les Gunners menaient depuis la sixième et un but de Kaya Vertz. Paris a égalisé grâce à Ousmane Dembélé sur pénalty à la 65e. Il aura donc fallu une séance de tir au but irrespirable pour libérer toute la capitale, Clément Brossard.
Il est 21h01 quand Paris exulte. Les feux d'artifice colorent le ciel parisien aux abords du Parc des Princes pour lancer une nuit de festivités.
On tient à féliciter tous les joueurs du Paris Saint-Germain. On est champions, mon frère.
On va kiffer ce soir, allez Paris.
Au rythme des klaxons, les bars de la capitale baignent dans l'euphorie.
Ah, on est champions, c'est légendaire.
Frère, c'est le bonheur ultime. Je suis hyper fier. Depuis le début, ils ont fait une saison de malade. C'est incroyable.
Scène de liesse également en banlieue, comme à Noisy-le-Grand. Où des centaines de supporters ont souffert avant de célébrer.
Deuxième étoile, et on y a cru quand fallait y croire. La mentalité de Luis Enrique, jamais lâcher, jamais baisser les bras.
Une heure après le match, 20 000 personnes avaient déjà rejoint les Champs-Élysées sur un nuage.
C'est à écrire dans les livres d'histoire, ce genre de choses. On est bien d'accord.
Moi, franchement, j'arrive pas à réaliser. J'ai l'impression que c'est un rêve. Paris, c'est vraiment magique.
La Tour Eiffel s'est elle aussi illuminée aux couleurs du PSG. C'est sous la dame de fer que Luis Enrique et ses joueurs lèveront cet après-midi la Ligue des Champions devant leurs supporters.
C'est Marquinhos, hein, le premier qui a soulevé cette coupe aux grandes oreilles hier, le capitaine auteur d'une intervention défensive décisive contre Kaya Vertz, une deuxième étoile pour le PSG et forcément une très grande fierté pour Marquinhos.
Pour moi, la première, elle était très spéciale parce que voilà, on a souffert pendant des années. Quand tu gagnes, quand tu arrives, déjà avant le match, j'ai pleuré sur le terrain. C'était un match différent, on ne savait pas si on allait gagner jusqu'au pénalty, jusqu'à la fin. Il y avait vraiment une tension de ouf. Voilà, la saveur de gagner ça, on va célébrer, on ne se rend pas compte encore. Ça reste dans la légende, dans l'histoire. Et je crois qu'il y a quelques années, on va voir ce qu'on a fait. C'était vraiment très beau.
Et oui, ils vont le célébrer, ce doublé. Ce sera au pied de la Tour Eiffel à partir de 14h. Près de 100 000 personnes attendues sur le Champ de Mars. Le PSG d'ailleurs s'engage à rembourser les éventuels dégâts. Les doubles champions d'Europe seront reçus ensuite par Emmanuel Macron à 18h à l'Élysée, avant de rejoindre le Parc des Princes pour poursuivre la fête qu'on imagine jusqu'au bout de la nuit. Les abonnés du Paris Saint-Germain recevront ce matin gratuitement un billet pour accéder au stade. Les portes du Parc des Princes ouvrent à 19h30.
Des célébrations qui seront bien maintenues aujourd'hui malgré les débordements et les violences de la nuit.
Oui, c'est ce que confirme Laurent Nunez, des débordements inacceptables, dit le ministre de l'Intérieur, qui a donné un premier bilan. Cette nuit, 416 interpellations, dont 283 rien qu'à Paris. 7 policiers blessés gravement, dont un gravement à Agen, victime d'un traumatisme crânien après une chute. La joie et la fête qui ont, que vous le disiez, Fred, hein, laisser place parfois à la violence, notamment donc à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est là que vous vous trouvez, Pierre Bazin du service police-justice d'RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Pierre, la fête ce matin n'est pas terminée.
Oui, on pensait découvrir les Champs-Élysées abîmés par une nuit agitée, mais calme ce matin, et bien au contraire, il y a encore du monde ici, des gens qui multiplient les comportements irresponsables, on va le dire. Au moment où je vous parle, une voiture folle remonte l'avenue à contresens, à toute vitesse, avec à bord des passagers et un conducteur qui consomme de gros ballons de protoxyde d'azote. On a frôlé le drame parce qu'il y a beaucoup de piétons, de cyclistes qui parcourent cette avenue, c'est dangereux. Les policiers ont encore beaucoup à faire. Et puis au milieu de tout ça, il y a les agents de la ville qui s'activent pour remettre le secteur en état. Il faut nettoyer les nombreux débris de verre, les restes de mortiers d'artifice et des munitions de LBD également, parce que les forces de l'ordre en ont utilisé beaucoup. Et puis pour certains commerces, ce sont les vitrines qu'il va falloir remettre en ordre, puisqu'il y a eu de la casse, beaucoup de casse cette nuit. Enfin, preuve que la soirée a été agitée, il y a encore dans l'air par endroits une odeur de gaz lacrymogène qui irrite les narines. J'insiste, Clara, mais si vous empruntez le secteur avec votre voiture, soyez extrêmement prudent. Le bilan des blessés de la route cette nuit est déjà bien trop important.
Merci Pierre Bazin du service police-justice d'RMC en direct des Champs-Élysées. Pierre, qu'on va retrouver tout au long de la matinale pour faire le point sur ces débordements.
Qu'en pensez-vous ? Peut-on encore faire la fête dans ce pays qui s'appelle la France ? Je vous attends au 32-16 ou sur le WhatsApp 06 12 424 424. Hein, qui fait la fête ? C'est les Spurs qui ne sont plus qu'à une marche du titre.
Oui, qualifié pour la finale de la NBA, ça s'est passé cette nuit.
Look at the emotion from Wemby. Unbelievable.
Incroyable, un septième match épique, victoire 111 à 103 contre Oklahoma City. C'était le dernier match à gagner pour se qualifier. Victor Wembanyama, impressionnant, il a inscrit 22 points dans ce match. Le Français en larmes à l'issue, il a été désigné MVP du match. Les Spurs auront donc désormais 4 matchs à gagner contre les New York Knicks. Ça commencera jeudi prochain pour cette finale de NBA en basket. Lui n'aura pas réussi à faire durer son rêve.
Amorti de quoi, mais ça sort et Tabilo donc se qualifie. Quel dommage pour Moïse Kouame, défaite 4-6, 6-3, 6-3, 7-6, plus de Français dans ce Roland. C'est le 13e schlem où on n'est pas capable de mettre un bleu en quart.
Moïse Kouame éliminé aux portes des 8e de Roland Garros, la révélation du tennis français battu en 4-7 par le Chilien Alejandro Tabilo. Mélena Marjac, Kouame donne déjà rendez-vous à l'avenir.
Il a marqué les esprits, déjà ceux du public, tous conquis par Moïse Kouame.
C'est un champion, il nous a fait vibrer, j'ai plus de voix. Franchement, grande star montante, il est promis à un grand avenir, j'espère.
Pas grand chose à lui reprocher à 17 ans.
C'est le début d'une grande histoire, je le sens. Un nouveau Gaël Monfils peut-être.
Le futur Gaël Monfils, oui, mais surtout un futur vainqueur de Grand Chelem, certains l'espèrent. En attendant, Kouame a impressionné tout le monde, même Ivan Lubicic, le responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis.
Franchement, c'est très haut niveau ça, c'est fantastique. C'est facile à oublier qu'il y a 17 ans. Quand tu regardes le niveau de tennis, des maîtrises, des émotions, des tactiques, de la pression et tout ça, c'est fantastique.
Moïse Kouame, lui, ne préfère pas se mettre de pression. Cette semaine à Roland-Garros, il s'en souviendra. C'est une sacrée expérience pour son premier grand chelem.
Je vais essayer de profiter, de revoir un peu ce que j'ai fait. Pas envie de trop de me projeter non plus trop tôt dans le futur. Je pense que ce serait une erreur. Là, je vais essayer de revoir un peu ces matchs incroyables que j'ai pu jouer et on verra à la suite.
La suite en attendant sera du côté de Lyon début juin pour un tournoi Challenger avant de possiblement voir Moïse Kouame à Wimbledon en cas d'invitation.
Et tous les espoirs de la France reposent désormais sur Diane Paris car il reste bien une Française hein, en lice. C'est la seule tricolore encore en lice dans le tournoi. La Française de 24 ans qualifiée pour les 8e. Elle a battu hier la numéro 6 mondiale Amanda Anisimova. Diane Paris qui rejouera demain. Petite journée de repos avant de rattaquer.
Ça ferait du bien.
Ouais.
Beaucoup de gens je pense aujourd'hui de repos.
Petite sieste, on fera plus tard.
Merci Clara. Gabillon, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'info et on va encore parler bien entendu du Paris Saint-Germain. Mais tout de suite, il est 6h09. N'oublions pas les pronostics de Mathieu Zaccanini de la Dream Team des courses RMC. Bonjour Mathieu.
Bonjour Fred, bonjour à tous. On va évoquer ensemble un dimanche exceptionnel pour le Quintet Plus, tout simplement, puisqu'il s'agit du Qatar Prix du Jockey Club. C'est une compétition qui réunit les meilleurs poulains âgés de 3 ans sur la distance des 2100 mètres sur gazon sur l'hipporome de Chantilly. Et il y a un parterre d'entraîneurs de renom qui sont présents avec leurs chevaux. Et de notre côté, moi je vais en tout cas... et après avoir vu ça avec Dimitri et Fred, on va partir sur le numéro 16, Constitution River, qui reste sur 3 succès et qui est tout simplement entraîné par l'un des meilleurs entraîneurs au monde, l'un des meilleurs professionnels au monde, qui est Aidan Patrick O'Brien, qui a plusieurs représentants dans cette compétition. Mais je pense que, au vu de ce qu'a montré ce numéro 16, c'est un peu une première chance, donc ça sera notre favori. Et en second choix, on va faire confiance au numéro 10, Como Rebi, qui est entraîné également par l'un des meilleurs entraîneurs au monde, qui est André Fabre. Et ce cheval reste tout simplement sur une deuxième place au plus haut niveau. C'était sur l'hipporome de Paris-Longchamp la dernière fois sur l'Emirates Pool d'essai des poulains. Et il avait laissé une très belle impression. Donc je pense que ce numéro 10 est en mesure également de prétendre à l'une des 5 premières places dans cette compétition.
Merci beaucoup Mathieu. Allez, je vous donne le programme des prochaines minutes. C'est simple, c'est une antenne spéciale ce matin. Après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, Paris conserve son titre. Racontez-moi comment vous avez vécu ce match historique. Pensez-vous que le PSG est d'ores et déjà entré dans la légende du sport français? On va aussi malheureusement devoir parler des débordements, violences, saccages et pillages. Peut-on encore faire la fête en France? Je vous pose cette question. À 6h25, dans l'œil des réseaux, Kevin Gasser va nous parler des stades de Liesse qui pullulent sur les réseaux, justement. Racontez-moi tout au 32-16 sur Direct Studio ou sur mon WhatsApp 06-12-424-424 où vous êtes déjà nombreux, nombreux, nombreux à l'image de Rachel. Bonjour Fred. Ligue des Champions, ma fille, avec ma fille dans un bar, dans une belle ambiance. Stressé, mais un bonheur infinie à Gémé les premiers et elle met 2 étoiles. Ouais, oui, ça fait du mal du côté de Marseille d'entendre ça, à Gémé les premiers. Christophe qui nous dit, il y a des mauvais supporters, il y a des bons supporters. Comme ça, chapeau bas, messieurs. S'il vous plaît, parlez un petit peu des bons supporters. Ben oui, on le fait aussi. Émilie qui nous dit que le PSG fasse le ménage dans ses supporters et que le PSG paye les dégâts. Le PSG a déjà annoncé que s'il y avait aujourd'hui des choses qui étaient cassées, notamment du côté du Champ de Mars, eh ben le club parisien se chargerait de payer les dégâts. Restez avec nous sur RMC. Là, je vous parle avec un supporter qui ne s'est pas encore couché. Bon, il a vu le match, c'était le matin là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il est à New York. À tout de suite.
RMC, 6h-7h. Bonjour, c'est Fred.
Fred Hermel.
RMC, il est 6h12, l'heure de fêter la victoire encore et encore.
RMC, bonjour les leftos.
Bah oui, c'est l'heure des passionnés. Alors lui, c'est pas un lefto parce qu'il s'est pas couché. Je suis ravi d'accueillir Benjamin Brami, supporter du PSG et d'Arsenal. Bon, il était sûr de gagner. Qui a vu le match dans un bar aux États-Unis, à New York City, à New York. Bonjour Benjamin.
Salut la matinale, ravi d'intervenir dans votre émission.
Comment ça va Benjamin ?
Eh bien écoutez, très bien. En effet, l'issue du match ne pouvait que me plaire. Donc j'ai regardé cette finale avec une certaine sérénité, même si mon cœur a quand même balancé pour une équipe plutôt qu'une autre au final pendant le match.
Alors laquelle ? Parce que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, ouais, et d'Arsenal, mais à un moment c'est aller vers qui ?
Un moment, il fallait choisir, et en fait, j'ai choisi même avant le match, parce que je me suis dit, bon voilà, un vrai supporter, il doit pouvoir choisir pour vivre à fond émotionnellement le truc. Oui. Et ça a penché plutôt du côté d'Arsenal, parce qu'on était dans un contexte quand même où Arsenal venait de gagner la Première Ligue, et voilà, m'avait procuré énormément d'émotions sur sa saison en championnat d'Angleterre. Donc voilà, ça a plus penché pendant le match côté d'Arsenal. Et j'étais dans un bar de supporters du PSG. Donc
je me suis fait pas mal chambrer. À New York, hein.
À New York.
Oui, parce qu'il est quelle heure là à New York ?
Et ben là, il est un peu plus de minuit.
Un peu plus de minuit.
Donc un peu plus de minuit. Donc on a regardé le match à midi, quoi.
À midi, d'accord. Donc
fin de matinée.
Et il y avait beaucoup. Alors, parce qu'il y a des bars français qui soutiennent le PSG à New York. Voilà, ça je savais.
Exactement.
Pas.
Exactement, il y a un gros fan club du PSG à New York, qui avait d'ailleurs notamment été mobilisé quand le PSG avait joué la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis l'an dernier. Et voilà, le bar en question s'appelle le Legends, et c'est un bar qui est le QG des fans du PSG, mais aussi d'autres clubs, de Leeds, Crystal Palace, plein d'autres clubs de football. Donc il y a quand même une vraie culture foot avec des fan clubs dédiés.
De plus en plus, hein, de toute façon, aux États-Unis, hein, notamment avec toute l'immigration latino qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de fans de football. Donc c'est devenu le soccer, comme il l'appelle là-bas, est devenu vraiment une discipline, un sport qui plaît de plus en plus. Et puis en plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours, quoi. Donc on sent déjà l'ambiance Coupe du
complètement
Monde à New York, parce qu'il y a pas mal de matchs.
On la sent. Ouais, complètement, on la sent. Moi, que ce soit à l'aéroport ou dans la ville, on voit plein d'affiches de partout, des gens dans la rue qui commencent à porter les maillots des équipes nationales. On sent un peu les prémices de la ferveur du truc.
Il y avait beaucoup de Français. Il y avait beaucoup de Français dans le bar.
Ouais, alors c'était, il y avait quand même, on voit qu'il y a une bonne communauté d'expats français. Je saurais pas dire, mais je pense qu'il y avait facilement 400-500 supporters du PSG dans le bar.
Ah oui, c'est un grand bar. Alors.
Ouais, c'est un immense bar.
C'est un sports
tous
bar,
les supporters du PSG. Comment ?
C'est un sports bar, comme on dit.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est
un peu lisé.
Il y a des écrans, mais de partout. Et tous les supporters vraiment du PSG se rassemblaient au sous-sol. Où là, il y a des écharpes du PSG, et au rez-de-chaussée. En revanche, c'était un peu plus mixé. Il y avait quand même pas mal de supporters d'Arsenal, notamment des Américains qui adorent Arsenal. Donc c'est un peu plus équilibré à l'étage, enfin au rez-de-chaussée.
Et pas de tension entre les supporters ?
Franchement, non. C'est ça qui est agréable, ça chantait. Mais c'était vraiment dans la bonne humeur. Ça se chambrait dans la bonne humeur. Il n'y a pas eu le moindre début de tension verbale ou autre, quoi.
Ah, mais c'est ça, mais ça fait plaisir. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on veut vivre le foot. Hein. C'est évident.
Complètement.
Eh ben, merci pour votre. Vous êtes en vacances à New York, hein, c'est ça, hein ?
Exactement, exactement. Je suis venu pour les vacances, donc j'en ai profité pour regarder le match, et j'étais donc avec mon cousin qui lui avait plutôt choisi le PSG pour ce match-là.
Et
bah,
donc il a gagné.
Mais bon, et ben voilà, il a gagné. Et pour vous dire, j'ai malgré tout quand même, on est repassé dans son appartement, et avant de ressortir l'après-midi, quand même, j'ai switché, et j'ai mis un maillot du PSG. Parce que ça reste historique aussi d'avoir une deuxième étoile. Donc
ouais, c'est du jamais vu. Voilà. Aucun club français n'a eu deux étoiles. Voilà, c'est comme ça.
Complètement.
A jamais les
non, premiers c'est énorme,
à avoir
c'est énorme
étoiles.
Ce qu'ils ont fait.
Voilà. Ouais, oui.
C'est énorme.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin Brami, supporter du PSG et d'Arsenal, et qui a vécu cette nuit historique, cette soirée historique, même si pour lui c'était midi, dans un bar à New York. Bonne journée, puis bon retour en France hein, bientôt. Restez avec nous parce que vous êtes déchaîné sur le WhatsApp 06 12 424 424. Vous êtes déchaîné aussi au 32 16. Il y a Antoine, il y a Jérôme, plein de supporters du PSG un peu partout en France qui ont envie de partager leur joie avec nous, avec vous. Et puis il y aura Kevin Gasser aussi qui va parler de la liesse qu'il y a sur les réseaux. À tout de suite sur RMC.
RMC, bonjour, c'est Fred.
Fred Hermel.
RMC, il est 6h20. On est bien ensemble dans cette journée spéciale, émission spéciale, bonjour c'est Fred, pour le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et vous êtes nombreux à nous écrire, nombreux à vous appeler, à nous appeler pour partager votre bonheur, à l'image d'Antoine, 38 ans, commercial à Voiron en Isère. Bonjour Antoine.
Bonjour Fred.
Et Jérôme, 49 ans, chauffeur livreur à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jérôme.
Salut Fred, salut tout le monde.
Oh bah dis-donc, la voix qui chante, hein, Jérôme. Hein.
Non mais moi je dis mon prime, Fred, merde. Faut se rendre compte, bordel, on sait pas comment ça peut tourner dans le foot. Hein.
Il faut en profiter, non? Mais bon, vous vous êtes couché quand même, Jérôme, ou pas?
Oui, j'ai dormi, je suis redescendu, mais bon, après, on peut quand même parler du match, Fred, c'était pas jojo quand même. Hein. Et ils commencent à gratter du temps au bout de 10 minutes, mais ils sont horribles, Arsenal.
C'est ah oui, mais ils ont marqué tout de suite, donc au bout de 6 minutes.
Ouais, on savait, la physionomie, c'était la pire qui pouvait arriver, et honnêtement, on n'aurait pas obtenu un penalty, je pense que, mais dans le jeu, c'était compliqué. Hein.
C'était très compliqué, parce que tactiquement, Mikel Arteta était très bon. Je sais pas ce qu'en pense Antoine, après, ce qui compte, c'est la victoire, hein, la qualité du match, en faisant une finale. C'est pas si important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine?
Moi, j'en pense effectivement. L'essentiel, c'était de gagner. Après, bien sûr, c'est le penalty qui nous remet dedans, etc. Mais on jouait quand même nettement mieux. On avait retrouvé notre jeu à l'entame de la deuxième mi-temps. On jouait quand même. On était plus percutants. Je sais pas dire si on n'aurait pas égalisé sans le penalty. Ça c'est du coup de fixon. Voilà, c'est peu importe. On a finalement égalisé. Après, on a remis la main sur le jeu quand même, parce que ils ont peu d'occasions. Hein, honnêtement, Arsenal, hein, ils doivent avoir un tir en deuxième mi-temps. On faudrait regarder. Je pense qu'ils ont un tir. Donc oui, voilà, c'était pas leur but. Ils voulaient défendre.
Clairement non.
Il leur faut 1:30 pour faire une touche, parce que et 3 pour tirer un coup franc.
Ouais, mais c'est
le jeu. L'anti-jeu, c'était affreux. Franchement, frère.
Oui, mais après, c'est une finale. Enfin, franchement, faut se mettre dans la tête des joueurs. Antoine, vous avez 38 ans. Jérôme, vous avez 49 ans. Autant dire que vous avez mangé votre pain noir avec le PSG. La remontada, par exemple, à Barcelone, vous l'avez vécu, ça. Donc, c'est d'autant plus agréable de savourer ce titre, deuxième consécutif, ce qui est du jamais vu dans l'histoire du foot français, après ce que vous avez vécu ces dernières années.
Assurément.
Fred, moi, je suis plus loin. Hein. Je suis la génération Okocha, Amaradiane. Moi, si je peux te dire que c'est encore plus Barcelone, c'était un fait de jeu sur Ligue des Champions, mais déjà, penser à l'époque, mais à l'époque, non mais 2-1 Sochaux, enfin tu vois, il y a tellement de choses qui revient et tu te dis mais c'est fou, oh, comme ce qu'on est en train de vivre à l'heure d'aujourd'hui, mais jamais j'aurais imaginé ça il y a 20 ans.
Pensez pas que le PSG serait sur le toit de l'Europe comme ça et considéré comme l'un des grands clubs d'Europe?
On n'imaginait même pas deux ou trois fois champion de France d'affilée sous Colonie Capitale. Fred, faut savoir d'où on vient au bout d'un moment. C'était vraiment la merde. Des saisons où on faisait l'ascenseur comme Marseille, on passait 4-3e, puis la saison d'après, on était 8e. Quand ils avaient ramené Dalmat, Lucin, tu disais Ali Ozic, tu disais ah yes, c'est enfin l'année, on va comment? Eh ben non, t'avais fini 2e, et puis derrière, ça repart en couille. C'était horrible, c'était affreux, que des ascenseurs émotionnels. C'est pour ça que je comprends les Marseillais. Je les aime pas, mais je les comprends, c'est horrible. C'est ce qu'on est en train de critiquer sur Marseille, on était aussi un club instable. Et c'est vrai que les Qataris ont amené ça, et puis derrière, une culture de la gagne et une envie de... de faire un des plus grands clubs mondiaux à l'heure d'aujourd'hui. Je crois qu'on est combien? Troisième, quatrième en marché d'enzing mondial.
Et là, c'est évident que ça va encore se multiplier. Hein. Un petit mot sur Luis Enrique quand même, parce qu'il a été décisif. Moi, je l'ai connu joueur au Real, vous imaginez, avant qu'il parte au Barça, avant qu'il entraîne. Ouais. Il a quand même réussi un truc incroyable.
Ah, c'est un coach absolument exceptionnel et c'est une personne exceptionnelle aussi dans sa mentalité parce que c'est quelqu'un qui est toujours il mesure sa chance d'entraîner des clubs comme le nôtre et il le dit quand on gagne la finale l'année dernière, il dit il a une pensée pour sa fille qu'il a perdue quand elle avait 9 ans d'une longue maladie hein, je crois. Il est même dans le documentaire qu'ils ont fait, il dit je suis pas triste parce que j'ai eu la chance de vivre 9 ans avec elle. Il dit pas c'est absolument terrible parce qu'elle est pas là.
C'est un bel exemple de ce qu'on appelle la résilience quoi. Donc et c'est vrai que dans cette victoire, il y a aussi un hommage à sa fille. Bah merci beaucoup Antoine.
Juste un dernier mot si ça dérange pas. Je pense que j'aimerais répondre sur Luis Enrique. Je pense qu'il a ramené ce que le PSG avait exactement besoin, c'est-à-dire la culture de la gagne et savoir que de toute façon, et le meilleur exemple c'est Marquinhos d'ailleurs. Où tu voyais que c'était un joueur sur vraiment des fois, tu vois, il commençait à perdre ses moyens quand il sentait que ça allait pas dans
mentalement c'est autre chose.
Hein. Mentalement, Fred, c'est vraiment moi c'est ce qui restera marqué sur Enrique. Il nous aura fait passer le cap qu'il fallait, c'est-à-dire au niveau mental. Au-delà du jeu tactique et tout ça, mais au niveau mental, il nous a fait passer un cap et merci à lui.
Merci beaucoup Antoine, 38 ans commercial à Voiron en Isère, et merci Jérôme, 49 ans, chauffeur livreur à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, avec ce message de Julien. Avec leur première Ligue des Champions, Paris était craint en Europe, avec la deuxième, Paris rentre dans le club très fermé des grands clubs européens. À Montpellier, je n'ai jamais vu autant de maillots du PSG. Fini Paris, on tend. Maintenant c'est Paris, on t'adule. À tout de suite, il y a Kevin Gasser qui arrive.
RMC jusqu'à 7h. Bonjour, c'est Fred.
Fred Hermel.
RMC, les 6h27. Allons faire un petit tour sur les réseaux sociaux.
RMC, l'œil des réseaux.
Avec Kevin Gasser. Bonjour Kevin.
Bonjour Fred.
Ce matin, évidemment, les images de la finale d'hier soir et de la célébration des supporters parisiens sont partout sur les réseaux.
Oui, à commencer par l'explosion de joie au Parc des Princes, bien sûr, au moment du dernier tir au but raté du joueur d'Arsenal qui offre au PSG son deuxième sacre européen. Parce que tous les supporters n'ont pas eu la chance de faire partie des 48 000 chanceux à assister donc à la rencontre sur grand écran. Aux abords du stade, bien, c'était aussi la folie, comme on peut le voir sur de nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Voilà, vous l'entendez, des jeunes supporters qui courent, sautent partout, des tirs de feu d'artifice, des fumigènes. Et après le coup de sifflet final, c'était le moment où des milliers de supporters ont rejoint les Champs-Élysées pour participer à la fête, comme Lamine, un influenceur sur Instagram qui se filme lui et son papa en train de courir comme des dératés vers la plus célèbre des avenues. Écoutez.
Papa, il y a le métro, pourquoi tu cours?
C'est Paris.
Voilà, une mise en scène, hein, on l'espère, parce qu'ils habitent en fait dans les Hauts-de-Seine, Fred, à plusieurs kilomètres de la capitale, donc en fait ils se sont ravisés. Mais des vidéos comme ça, en fait, elles fourmillent depuis ce matin, ça n'arrête pas. Et quand on ouvre, quel que soit son réseau X, Instagram, eh bien, on ne voit que des images du match.
Eh ben, ça fait plaisir, cette joie, hein, n'est-ce pas, Kevin? Merci. Ouais.
Peut-être les Marseillais, hein, qui vont un peu moins sur les réseaux en ce moment.
Ouais. Mais c'est vrai, je vois pas trop de messages de Momo, de tout ça, de tous les copains. De Victor Porcher, bon, je sais pas où il est.
Appu Internet.
Appu. on t'embrasse, Victor. Merci, Kevin. L'œil des réseaux est à réécouter sur rmc.fr et l'appli RMC. Un petit point sur la météo avec Peggy Broche, qui a ri à la blague sur Victor Porcher.
Oui, c'est vrai.
On va lui raconter.
Elle était bonne.
Merci. Et la météo, elle est bonne?
Bah, on respire. Oh. Alors, côté ciel, c'est beaucoup moins bien que ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est vrai. Mais au moins, on respire. On n'a plus de département en vigilance orange. On perd parfois 10 degrés par endroit. Ce sera le cas à Paris. Hier, on était à 34 degrés, 25 cet après-midi. On sera souvent dans l'ouest du pays entre 20 et 26 degrés, même si ça reste au-dessus des normales. Dans l'est, c'est là que ça reste chaud. On est encore souvent entre 28 et 31 degrés, jusqu'à 35 près de la Méditerranée. Alors, sous un ciel beaucoup beaucoup plus changeant. On a une perturbation qui arrive par la pointe bretonne qu'on va retrouver. Alors elle est peu active, mais elle va donner quelques averses entre la Bretagne et les Hauts-de-France cet après-midi. C'est bien nuageux sur le nord-ouest ce matin, ça va le rester dans l'après-midi. Comme dans le sud-ouest, on a beaucoup de grisailles qui vont se dissiper. On va retrouver un ciel variable. Et ailleurs, on a des averses orageuses qui se mettent en place en journée entre l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, en remontant vers l'Alsace. Il n'y a que près de la Méditerranée, finalement, où ça restera plutôt ensoleillé. Bien ensoleillé ce matin, avec de belles éclaircies cet après-midi. Et des averses orageuses également sur les Pyrénées.
Nous sommes le dimanche 31 mai, il est 6h30. Bon réveil à tous.
RMC, bonjour, c'est Fred.
C'est le moment d'accueillir Grégoire Morelli pour le journal. Bonjour Grégoire.
Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe pour la deuxième année consécutive après sa victoire face à Arsenal. Une joie partagée dans presque toute la France, car oui, côté de Marseille, cette victoire des Parisiens laisse un goût d'amertume. L'après-match a aussi été marqué par des débordements, affrontements avec la police, vandalisme, pillage. On fait le point d'ici quelques minutes.
Back to back pour le Paris Saint-Germain.
Ah, une victoire que vous avez pu suivre sur RMC dans l'After Foot avec Jean-Louis Tour et Valentin Germain jusqu'à la remise du trophée au capitaine Marquinhos.
Marquinhos qui baisse le trophée et qui va pouvoir le brandir dans le ciel de Budapest. Le PSG conserve son trophée. Le PSG, après avoir écrit l'histoire, entre dans la légende du foot. Marquinhos peut brandir dans le ciel de Budapest la Ligue des Champions.
Et oui, le PSG qui remporte donc sa seconde Ligue des Champions consécutive face à Arsenal. Une victoire acquise, on le disait, au tir au but, au bout d'un suspense insoutenable au Parc des Princes, où le match était retransmis sur écran géant. Les supporters du PSG ont vibré. Récit de cette soirée de liesse avec Corentin Roland.
Un dernier tir au but manqué par Arsenal et le Parc des Princes exulte à l'unisson. Le PSG remporte sa deuxième Ligue des Champions à Budapest et à 1500 km, le Parc des Princes chavire. Marilyn et son fils Raphaël vivent un moment de rêve.
C'était super, beaucoup d'émotions, très bonne ambiance, donc au top.
On ne pouvait pas rêver mieux, c'était vraiment incroyable. Merci le PSG, on est champion.
La délivrance est à la hauteur de l'angoisse pour les 48 000 supporters rivés sur les 4 écrans géants installés sur la pelouse. Le PSG a dû patienter jusqu'au tir au but pour s'imposer et a donné quelques sueurs froides à Raoul.
Ah, ça a été très dur, je crois que je suis passé 2-3 fois à côté de l'arrêt cardiaque, mais vivre ce moment-là avec mes enfants, c'était super, magnifique.
Ce sacro forceps lui donne une saveur particulière pour eux de 23 ans.
L'ambiance du back-to-back, c'est exceptionnel. L'année dernière, peut-être qu'il y a eu 5-0, mais là, on a ressenti un peu le stress. J'ai même plus de voix ce soir, j'ai tellement donné. Moi aussi, j'ai juste 120 minutes ce soir.
Les supporters n'étaient pas pressés de quitter le Parc des Princes. La fête s'est poursuivie de longues minutes après la remise du trophée aux joueurs.
Les hommes de Luis Enrique qui ont donc signé leur exploit, un exploit en conservant leur titre de champion d'Europe. Et l'entraîneur parisien, lui, ne boude pas son plaisir.
Ça a été un match très dur, très serré, beaucoup de souffrances. Mais je pense qu'on a cherché à porter les matchs à ce que nous sommes meilleurs. Et je suis très content, je pense qu'on a mérité. Et aucun des équipes mérite de gagner ce match. Mais si j'ai analysé, si j'ai juste toute la saison et toutes les difficultés qu'on a eues dans la Champions League avec ce calendrier, je pense qu'on mérite clairement de gagner notre deuxième Champions League.
À Marseille, par contre, l'ambiance était plutôt à la soupe à la grimace.
Ah oui, Fred, pour le premier club français à avoir remporté la Ligue des Champions, cette deuxième étoile sur le maillot du PSG est accueillie un peu plus froidement, Anna Jojard.
Jusqu'au dernier tir au but, les Marseillais ont cru en la victoire d'Arsenal. Mais c'est finalement le PSG qui l'emporte.
Ah, c'est horrible, vraiment, c'est horrible.
Bah, je pense que tout le monde est dégoûté, là. On est tous venus pour voir Paris perdre et au final, ils gagnent.
Ouais, on est déçus. Le match pour Arsenal, il n'a pas été fameux, mais bon.
Il y aura désormais une étoile de plus sur le maillot parisien aux grandes dames de Mehdi et Yanel qui arborent fièrement leur maillot de l'OM.
Dégoûté, hein. En deuxième Ligue des Champions, ils nous ont mis une tempête, là, du coup.
Seul trip était aussi deux, c'était la Ligue des Champions. Mais ils en ont deux.
Ils ont doublé.
On pourra pas les rattraper, là.
Des Marseillais qui, bien que déçus, reconnaissent des qualités dans l'équipe parisienne.
Ils ont une très belle équipe, c'est indéniable, hein. Et puis, c'est pas avec l'équipe de Marseille qu'on va rivaliser.
Franchement, ils ont fait une saison, elle est magnifique. On peut pas se cacher, ils ont tout gagné.
Quand on aime le football, ben, il faut aussi dire la vérité. Oui, c'est une très belle équipe où on voit une harmonie, une communion. Et donc, peut-être que c'est aussi ça le secret de leur réussite depuis 2 ans.
Et même s'ils se montrent bons joueurs, certains supporters marseillais tiennent à le rappeler.
On sera jamais les premiers. Eh oui, on a eu un premier et ça restera comme ça.
Alain Jaujard de Marseille pour RMC.
La soirée qui a aussi été marquée par de graves débordements.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé 426 interpellations partout en France, dont 283 à Paris. 7 policiers ont, eux, été blessés. De nombreux incendies et pillages de boutiques ont été rapportés, comme sur les Champs-Élysées. Célestin Bougère y était pour RMC.
Les Champs, bien souvent interrompus par les affrontements entre les policiers et une minorité de supporters. Mortiers et projectiles en tout genre d'un côté, grenades lacrymogènes de l'autre. Un des fans du PSG que je croise est déçu de ne pas pouvoir célébrer ce titre correctement. À côté de nous, une camionnette vient de prendre feu.
Malheureusement, il y a un côté fête, mais là, il y a des débordements.
C'est un peu dommage parce que la fête était quand même belle jusque-là.
Voilà, exactement. En fait, ce qui me fait vraiment mal, c'est que nous, les supporters, on voit que pour plein de choses, on est bridés. Et nous, au lieu d'essayer de montrer l'exemple, de se rattraper, ben, tous les ans, c'est pareil. Et on se fait... Regardez, là, je parle en direct.
Nous sommes interrompus par une nouvelle charge des policiers et un mouvement de foule. Dans une rue adjacente, une boutique de téléphone est pillée. Un autre incendie se déclare dans une cabane de chantier. Une fois les nuages de lacrymogènes dissipés, les chants reprennent. Même si l'ambiance a été festive la majeure partie de la nuit, certains regrettent d'être venus.
Les gens qui sont là pour foutre la merde, bah, ils pénalisent tout le monde. On se prend de lacrymo gratuitement et tout le monde prend. Et ça se fait pas pour nous, quoi.
Ça gâche un petit peu la fête.
Ça gâche un petit peu.
Peu à peu, la foule se disperse pour finir la soirée en dehors des Champs-Élysées, dans une ambiance plus bon enfant.
Et Célestin Bougère pour RMC. À Roland-Garros, cette fois, il y a eu une belle performance chez les Français.
Faire amorti de Diane Paris. Elle se fait. Bravo Diane. Elle est en huitième de Roland en battant Anisimova en trois manches. Superbe perf.
Et oui, Fred, ici, c'est Paris.
Oh là là, il a travaillé, bien sûr, le présentateur du flash. Oh là là.
Il fallait la trouver, celle-là. La dernière française, encore en course à Roland-Garros, commentée sur RMC par Eric Salio. Elle a signé hier un exploit en venant à bout de la sixième joueuse mondiale, Amanda Anisimova, l'américaine. Elle se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Une journée parfaite pour une grande fan du Paris Saint-Germain, Arnaud Valadon.
C'est tout sourire, maillot du PSG sur les épaules, que Diane Paris est arrivée en conférence de presse après sa victoire. À 24 ans, elle atteint pour la première fois un huitième de finale en Grand Chelem.
Ça a été un objectif pendant très longtemps d'être capable de passer ce cap-là de la deuxième semaine de Grand Chelem. J'ai eu plusieurs opportunités, je ne mettais pas non plus la pression, c'était déjà de me sentir mieux dans mon jeu, de reprendre confiance en plein de choses aussi physiquement. Je suis très contente que tout ça se mette en place et que du coup le résultat suit.
Après son match, Diane Paris a regardé la finale de la Ligue des Champions. Elle devait pourtant jouer en double avec Fiona Ferro, mais elle a déclaré forfait pour éviter de se fatiguer pour son prochain match demain. Sa coach Julie Coin rappelle que sa joueuse est à Roland-Garros chez elle.
Ses parents habitent là, elle a grandi ici, 2 kilomètres de là, et du coup elles sont à la maison. Elle a ses frères, sa sœur, elle a ses amis qui sont là pour l'encourager.
Après avoir sorti 2 têtes de série, Diane Paris défie demain la surprenante polonaise Chwalinskaya, 24 ans, qui dispute son premier Roland-Garros.
Côté homme, Moïse Kouamé, éliminé lui hier soir face au Chilien Tabilo. Mais le match du Français a été marqué par l'éclat de joie du public de Roland-Garros. À l'annonce de la victoire du PSG, les supporters parisiens présents à la porte d'Auteuil suivaient assidûment la finale de la Ligue des Champions.
Je regardais sur mon tel, j'avoue que c'était un peu compliqué de suivre les deux, surtout que le match était dingue. J'ai vu que Dembélé a égalisé, plein de joueurs dans le stade qui l'ont vu aussi.
On a totalement célébré, désolé à Moïse, désolé à Tabilo si on les a dérangés.
Nous, ça nous a quand même permis de vivre un truc de malade. C'est-à-dire qu'on regardait quand même un peu sur le téléphone en même temps. Franchement, c'était cool. On aurait aimé faire les deux séparés, mais c'est pas grave. Ça fait une très belle journée.
On s'est tâté à rester pour le match de Moïse pour aller dans Paris. Et on a vu qu'il a gagné le premier set. On pouvait pas partir.
Ouais, on pouvait plus partir après. C'était impossible. Donc on est resté. Et je pense qu'on a pris la bonne décision.
Et les supporters parisiens, ils ont rendez-vous avec les joueurs du PSG cet après-midi. 90 000 personnes seraient attendues sur le Champ de Mars à partir de 15h pour la parade. Avec le trophée à suivre, bien sûr, sur RMC, Fred.
Sur RMC, bien entendu. Merci Grégoire, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'info. RMC, les 6h38, c'est l'heure des conseils de Christophe Payet des Paris RMC. Bonjour Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous. Ce soir, clôture de la 25e journée du top 14 avec un match décisif hyper important dans la course au top 6. Clermont contre le Racing. Les Clermontois ont leur destin en main. S'ils gagnent contre le Racing, ils resteront devant les Parisiens et ils sont archi favoris à 1,38. Le nul est à 19 et la victoire du Racing à 2,85. Cette équipe de Clermont doit impérativement gagner parce que lors de la dernière journée, il faudra se déplacer à Bordeaux. Bordeaux qui aura besoin de gagner pour aussi se qualifier. Alors comme les Clermontois n'ont perdu que 2 matchs sur 12 à domicile, et que le Racing n'en a gagné que 3 sur 12 à l'extérieur, ben je vais jouer la logique. Victoire des Auvergnats qui restent sur 3 succès en 4 matchs. Donc, la victoire de Clermont entre 1 et 7, parce que le Racing va forcément résister le plus longtemps possible, et ça c'est coté à 3,45. Bon pari à tous.
Merci beaucoup Christophe Payet. RMC, il est 6h39. On va bien entendu continuer à parler de cette fête magnifique, de la victoire du PSG. On va parler des débordements aussi, parce que vous êtes beaucoup à m'écrire à ce sujet. Comme Mika qui nous dit, salut Fred, arrêtons de tout mélanger. Cette nuit, ce ne sont pas les supporters du PSG qui ont cassé partout en France, ce sont des casseurs qui ont profité d'un événement populaire pour semer le chaos. Martial qui nous dit, quelle purge ce match, mais pas de regret, Arsenal ne pouvait pas gagner sans avoir joué. Et Katia qui nous dit, j'ai une pensée pour Mbappé, je me demande ce qu'il peut ressentir. Et ben moi aussi. Reste avec nous sur RMC.
RMC, 6h-7h. Bonjour, c'est Fred.
Fred Hermel.
RMC, il est 6h41, l'heure de Socioligé.
RMC, bonjour la France.
On dit pas Socioligé, hein, mais je l'ai inventé, voilà, parce que je reçois un sociologue. Ben, vous savez, tous les samedis, tous les dimanches, je reçois ou je passe un coup de fil à cette France qui n'a pas de pétrole, mais qui a des idées, et qui a de grands chercheurs, à l'image de Séguir Lazeri, sociologue du sport, et qui nous fait le plaisir de venir ici en studio. Bonjour Séguir.
Bonjour.
Comment ça va?
Écoutez, ça va. La nuit a été un peu courte, mais ça va.
Supporter du PSG?
Alors, pas du tout en plus.
Mais, ah bon
mais voilà, comme en tant que sociologue, du coup, je me suis un peu penché sur la question, voir ce qui s'était passé et voir ce qui s'était, ce qui s'était déroulé, surtout par rapport à l'année dernière, savoir s'il y avait des choses qui avaient été plus ou moins confirmées, hein, parce qu'on avait quand même l'année dernière, enfin, en discussion avec d'autres confrères, on s'était posé des questions sur ce que pouvait représenter cette victoire, notamment cette mobilisation et cet enthousiasme autour du PSG. Et là, pour le coup, voilà, on voit qu'il y a quand même des choses qui se sont confirmées, je dirais, voilà.
Oui, parce qu'il faut être clair, le PSG n'avait pas forcément une cote magnifique en France et en Europe. On a le sentiment que quelque chose avait évolué avec la première victoire il y a un an, et là, avec ce doublé, il y a quand même pas mal de gens qui grimpe sur le bateau, quoi, comme on dit, hein, parce que ils disent, bah voilà, finalement ce club, bah, je m'identifie un peu à ce club.
Exactement.
Vous avez ce sentiment-là?
Ouais, oui. En fait, ce qu'on peut constater, alors je suis pas tout seul, parce qu'on en discute assez régulièrement avec effectivement d'autres confrères, parce que c'est le gros de l'actualité. Non, mais il y a effectivement un double ancrage en fait du PSG, c'est-à-dire que il a réussi son pari, à la fois être un club plutôt globalisé, mondialisé, qui se vit aussi à l'extérieur, et un club qui s'est ancré dans le local. Donc ça a été le grand pari du PSG, c'est d'en faire déjà un club francilien, et on voit qu'aujourd'hui il y a très peu de résistance de la part d'autres clubs en Ile-de-France notamment, et que le PSG a pris quand même l'ascendant culturel et mobilisatrice sur les populations, c'est-à-dire que voilà, tout le monde devient fan du PSG, que le PSG a une dimension beaucoup plus authentique qu'il ne l'avait sans doute par le passé, et aussi d'un point de vue mondial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une forme de supporterisme à distance, hein, c'est pas un concept que j'invente, c'est un concept qui a été notamment évoqué par un de mes collègues qui s'appelle Ludovic Lestrénin.
Il a raison.
Et effectivement,
comme on voit les matchs à la télé, on peut s'identifier à un club.
Oui. Effectivement, et on voit très bien qu'aujourd'hui, une victoire du PSG, ça se fait partout, même sur la planète, hein, même dans des endroits où le football, notamment la consommation footballistique, se développe énormément. Et en fait, c'est la réussite du PSG. Alors avec des vrais questionnements, c'est-à-dire que ce que je trouve très paradoxal, quand même, paradoxal ou plutôt surprenant dans cette histoire du PSG, c'est que le PSG a su marquer un ancrage local, c'est-à-dire vraiment fédérer autour de l'identité francilienne, notamment des quartiers populaires ou autres, avec très peu de joueurs, issus de ces quartiers-là, et notamment des joueurs comme Dembélé, Doué, qui eux n'ont jamais vécu à Paris, n'ont pas grandi à Paris, sont d'Evreux ou d'Angers, mais qui, par leurs attributs, par ce qu'ils vont pouvoir montrer, déployer dans leur visibilité, en quelque sorte, vont quand même mobiliser autour d'eux une forme d'attachement. Voilà.
Ouais. Mais il y a quelque chose aussi, parce que je vois par exemple les auditeurs qui m'ont appelé, là, il y en a plein, il y a des tonnes de messages, tonnes de liens, mais on avait un auditeur des Pyrénées-Atlantiques, mais en fait c'est partout en France. C'est-à-dire, on parlait de un message sur le WhatsApp 0612 424 424, un auditeur qui nous disait, en fait, je n'ai jamais vu autant de maillots du PSG à Montpellier. Voilà, on est loin de Paris quand même. Donc ça, c'est un peu la réussite nationale. Même dans le sud de la France, c'est quand même pas rien.
Totalement, totalement. Et puis surtout, en fait, il y a un truc qui est assez évident, c'est l'aspect générationnel des fans de PSG. Autant, alors, moi, je sais pas quel, enfin, j'ai 40 ans, mais pour le coup, moi, j'ai grandi avec effectivement les succès de l'OM. Les trentenaires, vingtenaires ont plutôt grandi avec les succès de l'OL. Et là, maintenant, du coup, c'est la génération PSG qui est évidente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui ont entre 18 et 20 ans ont grandi avec ces succès-là et se sont construits un rapport, ils sont socialisés au football grâce au PSG. Donc il y a un point sociologique très important.
Oui, parce que cette génération, l'histoire, l'ancrage dans l'histoire est très importante. Oui. Moi, je suis supporter de Lens.
Oui, oui.
Mais j'ai suivi l'OM dans les années 90, j'étais à la fac, comme toute la France. Mais il y avait une ferveur derrière l'OM, quand ils ont gagné, à jamais des premiers, on prend pas l'enlever, avec le but de Boli. Mais, et donc cette génération, tout le monde, toute la France était derrière l'OM. On n'avait pas le sentiment, l'an dernier, que toute la France était derrière le PSG. Cette année, c'est quand même très, très majoritaire.
Oui, c'est majoritaire, mais c'est aussi le mode opératoire du PSG hein, qui aussi crée des rivalités et dans son adhésion crée aussi des formes de polémique aussi. C'est-à-dire que, alors l'OM on le voyait un peu moins bien, mais le PSG c'est un club aussi qui s'est construit récemment avec une offensive d'un État hein, aussi. Il faut pas se le nier, c'est que vraiment il y a une,
l'État du Qatar.
L'État du Qatar, c'est-à-dire qu'il y a une politique quand même, une volonté politique quand même de créer, de faire du PSG un club phare. Donc il y a moins ce sentiment d'authenticité, de récit qui se déploie, qui fait que bon, le PSG au fur et à mesure des victoires ce serait plutôt instauré dans le paysage footballistique. Non, il y a quand même une volonté avec des véritables forces et des forces économiques très très importantes. Donc il y a aussi face à eux en fait une dimension très politique, c'est-à-dire que des gens qui au contraire ont leur petit club et qui pensent que la victoire sportive les emmènerait au sommet, en fait on se rend compte que il y a d'autres éléments structurels qui sont très très importants, à la fois le champ médiatique et le champ économique. Et là, le PSG, du coup, avait quand même été en porte-à-faux par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient sous le joug de la suspicion de se dire, bah non, ce n'est pas un club authentique, c'est un club racheté.
Certains disaient, c'est le QSG, le Qatar Saint-Germain.
C'est ça.
Ce n'est pas un club français.
Effectivement.
C'est un club du championnat de France, mais pas un club français.
Effectivement.
Ça change dans la tête des gens, ça, aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Ça change dans la tête des gens grâce notamment aux joueurs et au travail des joueurs. C'est-à-dire que, c'était une équipe quand même qui conservait énormément de stars, alors que là, aujourd'hui, on a commencé à créer un récit sur les stars. C'est-à-dire que on connaissait plus ou moins pour les fans de football qui suivent ça régulièrement. On savait qui était Désiré Doué, on savait qui était Barcola, on savait qui étaient tous ces joueurs-là. Mais néanmoins, leur récit sur le plan sportif s'est construit avec le PSG. Contrairement à, aux autres stars, hein, Neymar ou autres, qui eux, au contraire, sont venus pour apporter. Là, vraiment, le PSG a été en quelque sorte une force de proposition à créer un récit, et dans ce récit-là forcément on crée tout un champ émotionnel dans lequel on crée de l'adhésion.
On peut dire que le PSG avant achetait des stars,
oui,
et que maintenant il crée des stars, parce que Dembélé il était au Barça, un club très important, oui. Il ne gagne pas, ça ne se passe pas très bien, il ne gagne pas le Ballon d'Or, il arrive à Paris, il gagne le Ballon d'Or. Donc c'est le PSG qui crée des stars aujourd'hui. C'est ça le grand
basculement. Oui, bien sûr, on crée des stars, on crée véritablement un récit autour de la victoire aussi, c'est-à-dire que
la Farah, victoire, par exemple, personne ne connaissait vraiment. Le grand public a découvert Farah,
effectivement,
sous le maillot du PSG.
Bien sûr.
Des joueurs comme je sais pas, mais Dembélé,
Mais
Dembélé, c'était pas une star avant de devenir PSG.
Non, c'était pas une star, et puis en plus il était quand même.
On le connaissait, champion de France, de Rennes et tout ça. Mais...
Oui, bien sûr. Et puis, il était un peu sous le feu des critiques quand même, parce qu'il avait vécu quand même des années au Barça un peu compliquées. C'est véritablement ça. C'est-à-dire que le PSG a produit de l'histoire, a produit du récit footballistique, et ce récit footballistique est mobilisable à la fois dans le champ médiatique.
Ils sont plus sympathiques avec les joueurs qu'il y a aujourd'hui. Plus sympathique que quand il y avait Messi, Neymar et Mbappé.
C'est pas le même type de profil en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour Neymar de montrer toute sa sympathie quand on est une immense star et qu'on est attendu partout. On n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis du public. Là, effectivement, on arrive un peu sur la pointe des pieds et tout de suite, on va. Tout de suite, en fait, eux-mêmes vont quand même plus facilement aller vers le public et surtout vont produire eux-mêmes le récit. Alors que je pense que Neymar était un peu dépossédé de tout ça par sa notoriété. Moi, je pense à une scène assez marquante, c'est que l'année dernière, Désiré Doué arrive au Parc des Princes pour fêter son titre, le titre de Ligue des Champions, sur la musique de Booba. Et donc lui-même avait compris que effectivement qu'il y avait une culture urbaine très très présente autour du Parc des Princes, autour des supporters du PSG, et lui-même a réussi à mobiliser ça par sa propre volonté. Parce que c'est lui qui avait choisi ce morceau-là et il a été rentré. Et du coup, à tel point qu'on a cru que Doué venait du 92, de Hauts-de-Seine, alors que pas du tout, il vient d'Angers, qu'il a fait toute sa carrière à Rennes et qu'il n'a rien à voir avec les banlieues parisiennes. Mais c'est très, très marquant.
L'identification.
Et effectivement, il y a un phénomène d'identification et c'est aussi pour ça que ça marque et ça marche surtout beaucoup.
Ouais. Malheureusement, ces gardasseries, j'avais pas envie de vous poser cette question. J'avais envie de vous dire, ça s'est bien passé. Non, ça s'est pas bien passé. On a eu de graves débordements. Je vous propose qu'on rejoigne Pierre Bazin, qui est l'envoyé spécial d'RMC sur les Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe. Bonjour Pierre.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
Comment se réveille Paris aujourd'hui? Il est 6h49, ça y est, le soleil est là. Qu'est-ce que vous découvrez dans les rues parisiennes?
Eh bien, quand on est arrivé aux alentours de 6h, il y avait déjà... Alors, on s'attendait à un calme, hein, c'est ce que je racontais à 6h, mais il n'y avait pas tant de calme que ça, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur les Champs-Élysées, avec des gens qui adoptaient des comportements à risque. On a vu des voitures rouler à vive allure, alors qu'il y avait des piétons, des vélos, des gens qui consommaient du protoxyde d'azote au volant, c'est très dangereux. Donc, on était un peu surpris de voir qu'à 6h, il y avait encore beaucoup de monde dans cet état-là. Et là, le jour s'est levé... Et ça met en avant les dégâts sur les Champs-Élysées autour de l'Arc de Triomphe. Il y a une célèbre enseigne de moto, par exemple, devant nous, dont la vitrine a été complètement explosée. Ils ont visiblement utilisé des panneaux de signalisation pour exploser cette vitrine. On a vu pas mal de choses au sol, du verre, des grenades lacrymogènes, des matraques qui témoignent un peu de l'ambiance chaotique de la nuit dernière.
Merci beaucoup, Pierre Bazin, envoyé spécial d'RMC sur les Champs-Élysées. Guillaume, 38 ans, infirmier libéral à Logana Douala, dans le Finistère. Bonjour, Guillaume.
Ouais, salut, Fred. Salut à toute l'équipe.
Je vous lis, vous êtes dépité. Pourquoi?
Bah ouais, la fête est un peu gâchée, quand même. Faut dire ce qu'il y a. Pour tout te dire, tu sais, moi, on fait souvent au téléphone. Ce matin, je me réveille avant d'aller faire ma tournée. Là, je voulais boire mon café, je voulais prendre une dose de bonne humeur, tu vois, voir des scènes de liesse. C'est toujours agréable de voir des gens heureux, tu vois, faire la fête. Et j'ai mis BFM 2 minutes et j'ai coupé, quoi. Je me suis dit, bah voilà. Et ta question, c'était est-ce que on peut toujours faire la fête en France, tu vois? Et bah, je pense que oui, mais probablement pas avec le PSG et probablement pas avec le foot. Tu vois, l'an s'est venu.
J'étais moi, j'étais au stade, hein, ça s'est bien passé.
Ouais, ouais. Ça s'est très très bien passé justement. Le 27 juin, t'as les finales du rugby, t'auras 80 000 personnes dans la rue qui vont venir faire la fête pendant 3 jours pour fêter leur club et il y aura 0 débordement. Le problème, c'est quand même les supporters qui n'en sont pas. Hein, je pense, je ne sais pas qui fait ça.
Et ben on va poser la question à notre sociologue du sport, c'est Guillaume Lazeri. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne journée, merci pour votre témoignage. Vous avez entendu notre envoyé spécial, Pierre Bazin, vous entendez Guillaume, infirmier libéral, qui est dépité. On peut encore faire la fête en France?
Oui, on peut faire la fête, en fait. Là, c'est un peu le revers de la médaille, en fait, du succès du Paris Saint-Germain, c'est qu'il va mobiliser aussi une plus grande frange de la population, une frange d'autant plus jeune aussi. On expliquait que c'était générationnel. Et dans les déviances sportives, le premier fait et la première variable qu'on retient, c'est vraiment l'idée de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que quand on est plus jeune, on joue plus sincèrement avec les normes.
Mais pourquoi nous les Lensois? Alors moi, je suis vieux, mais les Lensois, pourquoi on n'a pas tout cramé il y a une semaine au Stade de France?
Non, mais alors Lensois, moi, je connais très très bien ce club. En fait. J'ai reparti aussi, mais moi, je suis un grand fan de Lensois.
Il n'y a pas
le même type d'adhésion sportive, c'est-à-dire qu'en fait on va concerner une population qui est totalement différente dans la sociabilité, la socialisation au sport. Et on sait très bien que le RC Lens en fait va capitaliser sur une véritable historicité, une continuité qui serait plus un fait sociologique de la région. C'est-à-dire que quand on est Lensois, on est marqué par une histoire sociale très très importante qui en fait n'a pas lieu, qui peut très très peu se transmettre dans d'autres espaces sociaux. Là, on a vraiment l'idée que le PSG a quand même un impact social très 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 important. On le voit que en fait on pense aux jeunes des quartiers populaires, mais aussi on pense aux jeunes des quartiers aussi ICUP du 92. C'est-à-dire que là on rassemble quand même une frange plus significative. Et dans ce sens-là, effectivement, il y a beaucoup plus de violence et de faits sociaux très importants et marqués par le saut, de dégradation ou autre. En fait, au regard de l'histoire sportive et sociale, plus un club émerge, plus un club a un impact social, plus effectivement ces faits sont là. Il n'y a pas plus de violence avant qu'ailleurs. Effectivement, il y a un truc qui est très vrai.
J'en ai vécu quelques-unes. Les champions à Madrid, je peux vous dire, il y avait plus de monde et il y avait pas autant de violence.
Mais alors, il y a aussi une vraie socialisation. Alors, vous parlez de Madrid, mais à Madrid, il y a une socialisation sportive au sein de la population qui est quand même beaucoup plus évidente.
Bien sûr.
Voilà. C'est-à-dire que le football fait partie de cette connaissance du sport. Aujourd'hui, en France, on a moins cet aspect de footballistique. On est aussi socialisé à d'autres pratiques sportives. On voit l'impact de Roland Garros, c'est quand même considérable. Mais néanmoins, effectivement, on peut lire ça comme effectivement l'émergence d'un club qui va apprendre aussi à gérer ces choses-là et les pouvoirs publics aussi qui vont aussi gérer avec le PSG ces choses-là. Et peut-être qu'il faut revenir aussi.
Le PSG avait fait dans son communiqué hier avait déjà appelé à faire la fête sans violence. Alors, ça c'est bien cette attitude quand même.
Bien sûr, bien sûr. Et puis en fait, la seule solution qui y est, enfin pour moi et pour d'autres chercheurs aussi, quand on évoque ces questions-là, c'est vrai qu'en fait l'exemple c'est l'exemple des pays du Nord, c'est-à-dire que là quand les pouvoirs publics dialoguent avec les supporters et qu'on considère aussi le sport et tout le monde du sport comme un élément essentiel pour pouvoir permettre une bonne cohésion sociale et que les événements se fassent bien.
Eh ben merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'est Guir Lazeri, sociologue du sport. J'étais ravi de vous avoir ici en plateau aujourd'hui. RMC, il est 6h55. On va continuer la fête. On va continuer à parler de tous les aspects de ce sacre historique du Paris Saint-Germain avec Anaïs Castagna. Je reste avec elle jusqu'à 9h. À tout de suite sur RMC.
RMC. Bonjour, c'est Fred.